Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Le débat agite la France depuis plusieurs jours. À partir de quel âge peut-on dire qu'on est consentant pour un rapport sexuel? Après deux affaires impliquant un adulte et une fillette de 11 ans, les associations féministes réclament l'inscription dans la loi d'un âge de présomption de non-consentement. En Suède, il y a plusieurs années déjà que la question de la limite d'âge a été tranchée, c'est 15 ans pour le consentement. Mais la question revient fréquemment à l'ordre du jour dans ce pays secoué par l'affaire Julian Assange. Anne-Françoise Hivert nous en dit plus.
Depuis plusieurs années déjà, et proportionnellement à sa population, la Suède arrive en tête des pays où sont enregistrées le plus de plaintes pour viol dans le monde. Cela s'explique en partie par la façon de compter un viol pour chaque rapport sexuel sous la contrainte, y compris au sein d'un couple. Mais c'est aussi le résultat d'un débat qui se poursuit depuis des années et qui a contribué à rassurer les victimes qui n'hésitent plus à porter plainte. Il tourne autour de la question du consentement et l'affaire Assange y a largement contribué. L'été 2010, deux Suédoises majeures accusent le fondateur de Wikileaks de viol et d'agression sexuelle. Dans les deux cas, les femmes ont invité l'Australien chez elles. Elles ont eu des rapports consentis avec lui. Mais elle l'accuse, pour l'une, de l'avoir contrainte à un rapport non protégé, pour l'autre, de gestes déplacés qu'elle aurait tenté d'esquiver sans résultat. Le débat est lancé, des milliers de Suédois s'interrogent. Qu'est-ce que le consentement? Comment doit-il être exprimé? Quand cesse-t-il? La loi sur le viol a été durcie et elle reconnaît désormais l'état de vulnérabilité particulière de la victime, lourdement alcoolisée ou bien handicapée, incapable de donner son consentement. Mais pour les associations de victimes, ce n'est pas suffisant. Elles demandent une redéfinition du viol dans la loi, qu'il ne soit plus seulement défini par un acte commis sous la violence ou la menace, mais par l'absence de consentement de la victime, vulnérable ou non, au prévenu de faire la preuve qu'il l'a obtenue. Une réforme est en discussion, mais les juristes mettent en garde, elle ne débouchera pas forcément sur plus de condamnations. Au final, ce sera toujours la parole de l'un contre celle de l'autre, comme dans l'affaire Assange qui s'est conclue finalement sur un non-lieu en mai dernier.
École internationale de boulangerie. Le nom peut paraître quelque peu pompeux, mais depuis 12 ans, cette école perdue dans un hameau du sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, attire du monde entier des adultes en reconversion. Car en plus de les former à la boulangerie traditionnelle bio ou au levain, elle imagine de nouveaux pains sans gluten, des créations véganes, une formation qui se double d'un suivi très serré des projets de chacun. Le reportage de Laurent Berthaud à Noyers-sur-Jabron.
11h du matin, le fournil est en pleine effervescence. Et cela fait déjà 4 heures que les apprentis boulangers mettent la main à la pâte, conseillés par le fondateur de l'école, Thomas Teffry-Chambellan.
Ouais, donc là, le praliné est prêt ?
Ouais, ouais.
Il a consistance déjà ?
Ouais, il est un peu mou à mon goût, mais c'est déjà.
Sarah, 45 ans, n'a pas chômé. De son ancien emploi de contrôle de gestion, elle conserve le sens de l'organisation.
Alors ce matin, donc j'ai fait cuire ce que j'avais préparé hier. J'ai fait la farine de meule, donc meule sur meule de pierre, des petits pains pralinés, des brioches au praliné et de la brioche feuilletée. Et un pain aux petites épaules. Voilà.
C'est vous qui avez déterminé le programme en fait?
En fait, on va définir la gamme qu'on aimerait présenter dans notre future boutique. Et après, on la pratique. L'objectif, c'est de la faire bien. Et après, on peut travailler sur des choses, des créations, quoi.
Et c'est facile de passer de la gestion à la boulange?
Oui, on voit le résultat beaucoup plus vite. C'est une plus grande satisfaction, plus rapide. Et on est un petit groupe, donc ça permet d'avoir une certaine solidarité. On s'entraide. Voilà.
Ouais, voilà, comme ça. T'en as d'autres ou c'est les derniers?
Non, j'ai encore un autre bac.
Mélanie est allemande, elle vit en Suisse, et ce qui l'a fait venir étudier en France, c'est...
Ça m'a toujours intéressé comment on faisait les baguettes traditionnelles, artisanales.
Vous aviez déjà fait ce métier auparavant ?
Ah non, pas du tout.
C'était quoi ?
À la base, moi je travaille en tant qu'assistante à la direction.
Et qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup vous avez eu envie de vous lancer dans la boulangerie ?
Dans la boulangerie, on voit directement les résultats de ce qu'on a fait. J'aime bien manger le pain et j'aime bien le fabriquer. J'ai quand même économisé pas mal de temps, ça fait quelques années. On a le droit de parler.
Le prix, ouais, de la formation. C'est
officiel, hein. Ouais. Ouais, c'est 14 000 euros et 4 mois.
Ouais. 14 000 euros pour 4 mois de formation intensive du lundi au vendredi. Il faut dire que les apprentis ne sont pas distraits par les tentations de la ville. La plus proche, Sisteron, est à 18 km. Une formation que Thomas Teffry-Chambellan a conçue sur mesure.
Là, tous les stagiaires travaillent sur leur propre gamme de produits qui sont variables en fait en fonction de leur projet. On a des gens qui s'installent en France, d'autres à l'étranger, certains en ville, d'autres à la campagne. Donc, ils ne vont pas proposer les mêmes choses à leurs clients. Donc là, chacun développe ses propres gammes de produits et les trois formateurs de l'école, nous sommes là pour les accompagner dans ce travail.
Avec parfois des projets bien spécifiques qui poussent les formateurs dans leur retranchement, Michael, apprenti, a une idée très précise en tête.
J'étais aux États-Unis il y a un an et demi, en Californie. Et moi, comme j'ai changé mon alimentation, que je suis vegan depuis 2 ans et demi, j'ai eu l'idée là-bas en me disant les produits français, ça marche assez bien. Et pourquoi pas faire une boulangerie vegan ? Disons que c'est une science nouvelle, même pour les enseignants, c'est des recettes qu'ils n'ont jamais fait avant. Donc il y a pas mal de ratés au début. Pour l'instant, j'ai au point juste le croissant, pain au chocolat et pain au raisin.
Avec quels ingrédients ?
On enlève l'œuf et on met plutôt du lait de soja, qui est aussi un émulsifiant. Et après, pour le pain au raisin, faut faire une crème pâtissière vegan, donc, qui tient la cuisson, parce que la plupart des recettes ne tiennent pas les cuissons.
Ce matin-là est également testée la difficile cuisson de pain à base de farine de riz et de sarrasin. De son côté, Nicole, ancien chef de projet, élabore une gamme plus traditionnelle, mais tout aussi exigeante pour sa future boulangerie.
J'envisage de le faire à Marseille, peut-être dans les quartiers nord. Ce ne sont pas des quartiers forcément faciles, mais bon, mérite aussi de manger du bon pain.
Qu'est-ce que vous pensez du type de formation ici ?
Pour moi, c'est la Rolls. D'abord parce qu'on pratique énormément, et puis qu'on terminera en ayant chacun un projet très clair, à sa personnalité, avec ses goûts, avec ses produits, avec ses clients, avec son territoire. Il y a 10 personnes ici, vous aurez 10 projets totalement différents.
Chaque année, ce sont ainsi une trentaine de projets qui sont décortiqués, émiettés, pourrait-on dire, pour en valider la pertinence et le sérieux financier. 80% des élèves passés par cette école, qu'ils soient français, colombiens, japonais, allemands ou suisses, s'installent à leur compte dans les 18 mois qui suivent. Les autres trouveront du travail comme salariés.
Du pain bio au simit, l'incontournable pain rond de Turquie, parsemé de graines de sésame. Quand on sait que les Turcs en consomment environ 1 million par jour, on se dit qu'il en faut des paquets de cette petite graine. Or, la production locale ne suffit pas. Il faut donc en importer, principalement d'Afrique. Anand Lauer nous appelle d'Istanbul.
C'est un petit anneau croustillant que vendent à la criée des marchands ambulants derrière leur chariot rouge et blanc, ou qu'on achète, sorti du four, dans une boulangerie. Ce qui fait la spécificité et tout le goût du simit, ce sont les centaines de graines de sésame dont il est parsemé. Quand on sait que les Turcs engloutissent environ 1 million de simits par jour, on se dit qu'il en faut des paquets de cette petite graine. Or, la production locale ne suffit pas. On est même loin du compte. La Turquie consomme en un an 150 000 tonnes de graines de sésame. Elle n'en produit que 15 à 16 000 tonnes, et de moins en moins chaque année. Résultat, le simit des Turcs est aussi un peu africain, puisque c'est d'Afrique, et notamment d'Afrique de l'Ouest, que le pays importe la plus grande partie de son sésame. Le prix du simit turc, symbole national s'il en est, dépend donc du prix de cette graine sur les marchés de l'export. Et autant il était possible, il y a quelques années, de trouver des simits à moins d'une livre turque, autant il faut désormais débourser 1,50 livre, voire 2, voire plus, pour déguster ce petit pain. Le problème avec le sésame, c'est qu'il est difficile de le récolter sans endommager les capsules qui contiennent ces graines. Raison pour laquelle la récolte se fait bien souvent à la main, ce qui la rend moins rentable et donc peu attractive pour les agriculteurs turcs, eux-mêmes de moins en moins nombreux. Depuis une vingtaine d'années, des chercheurs travaillent à la fabrication d'une moissonneuse-batteuse high-tech qui n'endommagerait pas les capsules de sésame. Ils développent aussi en laboratoire des capsules plus résistantes pour diminuer les pertes au moment de la récolte. En attendant de découvrir le sésame de l'autosuffisance, les Turcs continuent d'engloutir leur très cher simite et de semer sur les trottoirs des millions de petites graines pour le plus grand régal des pigeons.
Chaque jour, la Hongrie semble s'isoler un peu plus sur la scène diplomatique. Les relations avec l'Allemagne, son principal allié, connaissent un net refroidissement. Bonjour Florence Labruyère, vous êtes en ligne de Budapest. Alors, c'est une tradition depuis 25 ans, chaque année, une grande conférence diplomatique rassemblait des personnalités d'Allemagne et de Hongrie, mais pour la première fois, rien cette année.
Oui, c'est une rupture, car cette conférence présidée par les ministres des Affaires étrangères allemands et hongrois est le grand rendez-vous de l'année. On y croise des politiciens, des artistes, des scientifiques. Ce forum avait été lancé par le chancelier Kohl en 1992 pour aider la Hongrie à intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Et il s'est poursuivi parce que c'est une occasion unique pour les deux pays de discuter de coopération dans tous les domaines.
Pourquoi le gouvernement hongrois renonce-t-il à cet événement ?
Alors, pas d'explication officielle. Mais à Budapest, on invoque le fait qu'Angela Merkel n'a pas encore formé son gouvernement. Mais selon des médias d'opposition, la vraie raison serait ailleurs. Ces dernières années, ce forum a été l'occasion pour les Allemands et notamment pour le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, de dénoncer la dérive autoritaire de Viktor Orban. Sa mainmise sur les médias, ses attaques contre les ONG. Alors Viktor Orban supporterait de moins en moins ses critiques et préférerait se passer de ce forum. Mais ce n'est pas le seul signe d'un coup de froid. Cette année marque aussi le 25e anniversaire du traité de bon voisinage, signé par l'Allemagne et la Hongrie en 1992. Angela Merkel n'a pas invité Viktor Orban en Allemagne, alors qu'elle a convié les premiers ministres tchèques et slovaques à fêter l'anniversaire de traités similaires. Une manière pour la chancelière de montrer son agacement vis-à-vis de Viktor Orban, qui, selon Berlin, s'éloigne des valeurs européennes.
L'Allemagne ne fait pas figure d'exception, Florence. La Hongrie a des rapports difficiles avec d'autres gouvernements.
Oui, les relations sont au plus bas avec les États-Unis pour deux raisons. D'abord, Viktor Orban a fait voter une loi pour chasser du pays l'université américaine d'Europe centrale qui est installée à Budapest. Et ensuite, le pouvoir hongrois a opéré une véritable razzia sur la presse. Non seulement il contrôle l'audiovisuel public et de nombreux médias privés, mais récemment, un oligarque proche d'Orban a racheté toute la presse régionale. Alors face à la disparition du pluralisme de l'information, le département d'État américain a décidé de donner $700,000 à un média régional en Hongrie. L'appel d'offres vient d'être lancé et le gagnant sera connu en mai prochain. C'est une pierre dans le jardin de Viktor Orban qui s'était félicité de l'élection de Donald Trump. Il pensait que Trump le soutiendrait contre vents et marées, mais ça ne s'est pas produit et de nombreux diplomates américains sont restés en place au département d'État. Finalement, ils poursuivent la même politique que sous Obama. Ils continuent à dénoncer les atteintes aux droits de l'homme et à la liberté de la presse en Hongrie.
Florence Labruyère, notre correspondante en Hongrie.
Le rêve de voler deviendra réalité à Europa Park. Une nouveauté sensationnelle vous attend. Des prises de vue aériennes fantastiques des paysages et métropoles d'Europe viendront époustoufler les voyageurs. Des effets de vent, de pluie et de senteurs viendront agrémenter ce vol en tout point euphorisant.
Et voilà la publicité de ce parc d'attractions qui vient d'être sacré meilleur parc du monde pour la 4e année consécutive. Europa Park attire les visiteurs de tout le continent et les habitants de Roust, une petite ville allemande de l'autre côté du Rhin, se frottent les mains. Le parc y est installé depuis plus de 40 ans et la commune profite des retombées économiques. Des retombées qui ont un impact jusque de l'autre côté de la frontière, en Alsace. L'entreprise familiale qui a su s'imposer face aux mastodontes américains, notamment Disneyland, embauche en France à tour de bras. Reportage Maxime Noche.
La commune de Roust, c'est presque une petite ville normale de la vallée du Rhin, avec plein de maisons colorées à colombages, des rues désertes tôt le matin. Mais il y a une chose qui saute aux yeux quand on arrive, il y a des restaurants, des hôtels et des auberges partout. La porte d'une petite maison jaune est ouverte, un jeune homme passe l'aspirateur, il s'appelle Philippe.
Je suis étudiant et ma mère loue une chambre aux visiteurs d'Europa Park. On fait ça depuis 10 ans, on est très contents, ça rapporte pas mal. On a des gens du monde entier, bientôt quelqu'un d'Afrique du Sud. Les sites de réservation en ligne ont vraiment simplifié les choses. On est toujours complet. Et puis on donne aussi des petits conseils à nos hôtes. On les invite à aller visiter Strasbourg, Fribourg ou aller randonner dans la forêt noire.
Avec des nuits facturées à partir de 35 euros, la maire de Philippe revendique les prix les plus bas de la commune. Et ce n'est pas la seule à profiter d'Europa Park. À Roust, on compte 240 hôtels et chambres d'hôtes pour seulement 4000 habitants. Et la population de l'ancien village de pêcheurs a doublé depuis l'ouverture du parc en 1975. Bon allez, il est enfin temps de rentrer dans le parc. Il y a des fleurs, des fontaines, de la couleur partout. Europa Park, c'est tout simplement le premier employeur de la région dans une zone qui comprend pourtant les géants Mercedes, Porsche, Michelin, Zalando. On a rencontré Valérien, c'est l'un des nombreux Alsaciens qui travaillent au parc.
Je suis sur le parking, j'indique la direction aux personnes et où ils doivent se garer. J'étais en intérim. Le parc, c'est saisonnier, mais c'est mieux que l'intérim. Bon, on est quand même 3 mois au chômage quand il ferme, mais avant, c'était des petites missions d'intérim que j'avais et c'était jamais stable, quoi. Là, je sais qu'à la fin de la saison, ils vont me reprendre au bout des 3 mois qu'ils ont fermé, quoi.
Vous gagnez à peu près combien par mois ?
À peu près 1450, 1500 net. C'est mieux que ce que je gagnais avant.
Une fois sortis du parking, les visiteurs peuvent prendre un petit train pour se promener dans le parc. Un parc dont la création a été très compliquée. Le grand-père de Thomas Mack a pris de gros risques.
Il a dû hypothéquer sa maison. Une seule banque a accepté de lui prêter de l'argent. Les premiers articles de journaux sur le parc étaient très pessimistes. Il n'y avait aucune autoroute pour venir au parc, aucune grande ville dans les environs. En plus, le premier directeur d'Europa Park, embauché par mon grand-père, est mort 6 semaines après l'ouverture. Ça a été la douche froide pour lui. Et puis, il n'a pas trouvé non plus d'investisseurs pour construire des hôtels. Il a dû tout planifier lui-même.
À l'image de ces calèches qui se promènent dans le parc, rien n'est laissé au hasard pour créer un univers enchanté. Les décors, les costumes, la musique, tout est fait avec une précision et un réalisme impressionnant. Et c'est sûrement en partie ce qui a fait le succès d'Europa Park malgré les difficultés du début.
On a toujours mis l'accent sur la qualité. On a toujours directement réinvesti l'argent dans le parc, au lieu de le placer je ne sais où, pour que le parc soit le plus propre possible et qu'on puisse toujours innover. D'ailleurs, 80% des visiteurs sont des gens qui sont déjà venus. C'est qu'ils savent qu'ils trouveront de la nouveauté. En tant qu'entreprise familiale, on est très fiers.
La fierté est d'autant plus grande qu'il n'y a pas vraiment eu d'opposition à la création du parc. Mais maintenant, le nouvel obstacle pour Europa Park, c'est de trouver de la main d'œuvre, puisque dans la région du Baden-Württemberg où est implanté le parc, le chômage est proche de zéro. Et c'est pour ça qu'Europa Park va recruter en Alsace. Retour de l'autre côté du Rhin, à Célestat, juste au bord de la voie ferrée, est installé un pôle emploi un peu particulier. Il abrite un service de placement transfrontalier. En clair, ils aident les Alsaciens à trouver du boulot en Allemagne. Et l'un de leurs plus gros pourvoyeurs d'emploi, c'est Europa Park. Julien Dilmetz travaille au pôle emploi de Célestat.
On travaille avec eux notamment par le biais d'un job dating qu'on organise tous les ans, directement à Europa Park. Alors généralement, c'est au mois de janvier pour anticiper la saison à venir chez eux. On leur présente généralement une centaine de candidats qu'on prépare en amont de cet événement. Sur la centaine de candidats, ils ont embauché une quarantaine de personnes là pour cette saison actuellement. On diffuse également des offres d'emploi hors job dating, si vous voulez, pour des recrutements qui ne rentrent pas dans ce cadre-là ou qui interviennent par la suite. Sur des profils très différents, ça va généralement d'aide de cuisine, cuisinier, femme de chambre, réceptionniste. Et après, ça peut être des postes plus spécifiques comme des postes d'animateur ou des postes dans les services administratifs ou ce genre de choses.
En 2019, les offres d'emploi devraient encore plus affluer à Célestat avec la création du complexe aquatique d'Europa Park. 550 postes seront à pourvoir.
Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants de journal.